midi.
Québec se prépare pour la tempête qui s'en vient dans les prochaines heures. Ça va commencer ce soir, l'accumulation de neige. C'est ce qu'on nous mentionne, entre 2 et 4 cm annoncés, des rafales entre 50 et 80 km/h. Puis au courant de la nuit, c'est là que ça va commencer à brasser pour nous amener une accumulation de neige entre 15 et 25 cm. Encore là, des grosses rafales, 60 km/h. Ça va brasser. Donc, préparez-vous un plan B pour demain, les amis.
Du genre un plan B de couchette, un plan B
pour
de télétravail.
Pour Audrey, elle va devoir dormir à Québec. Là. Parce que demain, à partir de... Comment ça s'appelle son trou à l'habitude?
Deschambault.
Hein? Deschambault. Pour s'en venir ici, ça va être extrêmement compliqué. Je pense à tous ceux qui sont dans le secteur de Montmagny, qui travaillent à Québec. Quand il y a des tempêtes de neige, là, c'est tout le temps le premier secteur où tu dis, mais voyons, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais. C'est comme un microcosme là, ouais. Où tu dis, OK, là, moi, je suis vraiment dans une bulle de verre, là, puis on est pogné là, puis on s'en sortira pas. On va
un
mourir.
Endroit, franchement, un endroit sur la route qui est épouvantable là, quand ça arrive, là, Dufresne-Montmorency. Là où il y a eu l'accident avec l'ivrogne là, qu'on déplore, oui. Là, qui a décimé une famille, là, oui. Cette jonction-là, elle est ouverte. C'est juste le fleuve. Le vent qui passe là, tu vois rien.
Il y a des spots qui sont particuliers. Si tu montes vers super Robert Clich, là, vers la Beauce, la 73, à la hauteur de Saint-Isidore, c'est un, quand il neige, là, c'est un mur de neige. Tu vois pas l'autre bord. Puis quand t'approches, c'est super clair, là, comme s'il faisait soleil puis il y avait des oiseaux. Puis là, tu rentres dans le banc de neige.
Tu vois rien.
Puis pendant 2-3 minutes, après ça, tu sors, t'arrives à Sainte-Marie puis il fait super beau. Je sais pas qu'est-ce qui cause ça. Faudrait de parler avec un météorologue et astrologue prochainement. Parce que souvent,
mais s'arrêter sur la route. S'arrêter sur la route, c'est jamais une option, hein, en passant pour ceux qui le font. Là.
Ouais.
Et ça, là.
T'essaies d'être le plus visible possible. T'sais, j'ai déjà pogné des tempêtes de neige en Beauce où je roulais à 2-3 km/h. Puis je souhaitais juste qu'il n'y ait pas un gros truck qui arrive en arrière de moi à 150. Là. Mais c'était sur
on
n'a
pas le droit de
mettre
les 4 flashs, là, mais je trouve.
Je le fais pareil.
Ben.
J'essaie
c'est la
d'être
seule
le
façon
plus
d'être
visible possible. Là, t'sais, t'sais, les lumières rouges, les lumières clignotantes jaunes, t'as pas le choix. C'est de la chroniqueuse du soleil à qui on l'aime bien jaser à chaque semaine. Son nom, c'est Valérie Godreau. Bonjour, comment allez-vous, Mme Godreau?
Bonjour! Ah. Bonjour à vous deux, ça va très bien.
Là, est-ce que vous suivez le maire?
Très bonne entrevue qu'Olivier Primeau, d'ailleurs, j'ai bien aimé.
Bon, merci, merci. Est-ce que vous suivez le maire? Là? Êtes-vous quelque part dans le monde en mission économique? Là?
Non, toujours en attente, mais c'est pas mal confirmé. On va y aller au Texas, hein, parce que moi, on s'en est parlé ensemble il y a quelques semaines, donc que j'allais accompagner le maire. Il a été à Ottawa, il ira aussi à Washington. Mais on s'est quand même posé la question, est-ce que, tu sais, pour les entreprises, avec cette rumeur de tarifs, on sait que c'est un contexte là, un peu comme fait le premier ministre et tous les premiers ministres provinciaux présentement. Là, je me dis, ça peut-tu aller au point d'être compromis? Mais on me dit que non. Alors, dans un petit peu plus d'un mois, là, je vais me préparer à partir au San Antonio, Texas. Et puis, on pourra, évidemment, je pourrais vous raconter tout ça.
Oui. Là, tu voulais nous parler aujourd'hui de la personne qui va remplacer Pierre Fitzgibbon parce que les élections partielles dans le comté de Terrebonne, ça a été mis en place hier. On a connu le candidat, je l'ai fait entendre dans le pit stop, puis on n'est pas convaincu que la CAQ est très, très positive de gagner ou de regagner ce comté-là. Est-ce que tu es d'accord avec moi?
Bien, 100%. Tu as entendu François Legault hier, depuis Washington, il s'est fait poser la question en marge là, du scrum sur les tarifs en disant, me semble que t'sais, vous êtes absent, c'est lancé, là, le jeune il doit se contenter d'une vidéo. C'est-tu un peu... Et très bizarre réponse de François Legault. Il dit quelque chose comme, ah ben vous savez, je suis confiant de gagner l'élection générale, la prochaine. C'est comme une façon, en tout cas, moi, j'ai trouvé là, qu'il le négligeait. Je l'écris d'ailleurs. Je trouve que franchement, peu importe le contexte, quelqu'un qui met sa face sur une pancarte, je pense, mérite d'être présenté en bonne et due forme. Et ça ne fait qu'augmenter le contraste d'à quel point le Parti québécois a été proactif dans cette campagne-là.
Ouais.
Écoute, ça remonte à septembre. Pierre Fitzgibbon a démissionné. Tout de suite, ils avaient même, le PQ, ils étaient en conseil de rentrée, là, tu sais, les caucus de la fin de la session et tout. À Rouyn-Noranda, ils ont fait la dernière journée de leur caucus. Ils l'ont fait à Terrebonne dans les heures suivant la démission de Fitzgibbon pour aller un peu planter leur drapeau. Puis j'ai l'impression que la CAQ a jamais réussi à reprendre un peu le momentum relié à cette élection qui a été officiellement déclenchée 5 mois et des poussières alors que le gouvernement avait jusqu'à 6 mois. Ça aussi, ça montre pas un grand enthousiasme. Donc, je suis assez d'accord. On dirait que la CAQ l'a concédé au PQ.
Ce qui est assez particulier, c'est qu'hier, tu sais, François Legault, j'ai pogné ça sur RDI, il disait que les partiels, ça servait aux gens à passer le message au gouvernement qui était en place quand c'était un membre de leur gang. Je trouvais ça réducteur là, pour le pauvre diable qui est là. Tu sais, il remplace quand même un super ministre. Là. Il prend la place de député d'un super ministre qui a pris de l'espace comme pas pire. Puis là, il arrive hier, diffuse sa vidéo que je veux faire entendre aux auditeurs à l'instant. C'est pas quelqu'un qui est très vieux, là, je vais vous avertir d'avance.
27 ans.
C'est 27 ans. C'est lui qui remplacerait le super ministre Pierre Fitzgibbon comme député de Terrebonne.
Salut tout le monde, je m'appelle Alex Gagné. J'ai un petit gars de la région de la Nodière, puis je me trouve d'ailleurs au cœur du vieux Terrebonne pour vous annoncer que je vais porter les couleurs de la coalition Avenir Québec pour l'élection partielle dans Terrebonne.
On va y souhaiter bonne chance.
Ben, écoute, c'est drôle, c'est très ironique d'entendre M. Legault peut-être négliger là, cette élection-là, parce que c'était un peu l'objet de ma chronique ce matin où je disais une partielle, des fois, c'est plus qu'une partielle. C'est qu'il y a eu dans l'histoire des élections comme ça qui sont des tournants. Hein. Ça monte un peu le momentum et François Legault en a largement bénéficié. Geneviève Guilbeault, là, hein, notre très ultra médiatisé vice-première ministre et ministre des Transports, n'oublions pas qu'elle est arrivée en 2017 dans une partielle, dans Louis Hébert. On a fait « Ah ouais, OK ».
Elle sortait de nulle part.
C'était un an. Ouais. De nulle part, elle était jeune, elle était, à ce moment-là, est arrivée.
Enceinte.
Une histoire convaincante, enceinte.
Quelques mois avant, elle faisait des capsules de recettes. Là. C'était pas quelqu'un qui avait été militante en politique face aux caméras. Là.
On parle, c'est Geneviève Guilbeault. Oui. Et elle, on l'a connue parce qu'elle était la représentante du coroner dans le dossier de Lac-Mégantic quand il y a eu la tragédie. C'est là que les gens ont dit « Ah, ben, elle ferait une bonne politicienne », puis on a décidé de commencer à s'intéresser à elle.
Absolument. Puis pourquoi c'est intéressant? Puis c'est pour ça que moi, je m'intéresse aux élections partielles, parce que oui, puis François Legault a raison. C'est comme d'envoyer un message sans risque. Tu changes pas de gouvernement, mais t'envoies un petit message. Mais il y en a des partielles qui ont été la bougie d'allumage d'un phénomène beaucoup plus profond. La CAQ en 2017, un an plus tard, ils prennent le pouvoir. Donc, on voyait déjà, oh, OK, les électeurs, ça s'en va vers là. Le Parti québécois, s'il remporte Terrebonne, ben ça peut venir confirmer un peu ce qu'on voit dans les sondages. Et rappelons-nous comment François Legault a perdu les pédales le lendemain de l'élection de Pascal Paradis dans Jean Talon. Ouais. Écoute, le PQ dans Jean Talon, circonscription libérale, aucune présence du Parti québécois dans la région de Québec, puis il l'élise en pleine élection partielle et le lendemain, François Legault perd sa boussole, ramène le troisième lien. C'était en octobre 2023, ça. Mm-hmm. Fait qu'on vient de pas dire qu'une partielle joue pas dans la tête des autres partis. Ouais. Moi, j'y crois pas. Je pense que c'est un vrai message qui est envoyé lors d'une partielle.
Mais, tu sais, François Legault, ça fait longtemps qu'il est politicien, puis on dirait que jamais il aurait dit ça pour ce qui est de l'élection partielle de Jean Talon. Il était persuadé qu'il allait réussir à la ravoir. Puis comme tu dis, il a perdu ses repères le soir même, puis le lendemain, où il a dit une affirmation qui est un peu... je fais de la radio à Québec, fait que je peux me permettre de dire ce que je ressens vraiment. Une déclaration qui est un peu conne, c'est-à-dire on devrait commencer à écouter les électeurs. Ben, c'est un peu là.
Ben oui.
Je pense que c'est la base d'un politicien de représenter ses électeurs, donc par le fait même les écouter. Là. Puis il avait complètement fait le vire capot, puis ramené le dossier du troisième lien alors qu'on l'avait tué avec Geneviève Guilbeault quelques semaines avant.
Ah, écoute, c'était spectaculaire, puis force est d'admettre que peu importe, là, puis je suis même pas pro ou contre le troisième lien, je pense que c'est là qu'on a réalisé que c'était même plus une question d'être en faveur ou non, c'est des deux côtés, les gens sont tannés de se faire niaiser, c'était ça qui était envoyé comme message, et par la suite, en octobre 23 et en juin, lorsqu'on a relancer le troisième lien. On le voit, le buzz, il n'est pas le même. Même les gens qui sont partisans du troisième lien, ils sont tannés de ce yo-yo. Et ça n'a pas été non plus la panacée là, pour le gouvernement. Il n'a pas réussi à remonter les sondages davantage après ça, pas plus qu'en juin, en promettant et le tramway et le troisième lien. Donc, c'est comme s'il y a de quoi qui est un peu brisé, même si Legault a bien... À mon avis, c'est quand même bien comporté dans tout le dossier des tarifs. On dirait qu'on le voit, là, on verra peut-être les prochains sondages, parce que là, bon... cette situation-là dure, est-ce qu'il va retrouver cette touche, mais il y a vraiment quelque chose qu'on dirait que quoi qu'il fasse actuellement, François Legault, ça colle pas.
Ouais, il y a quelque chose que je vais aborder avec toi, oui? Valérie Gaudreau. C'est quelque chose qui s'est passé hier. On regardait l'agenda de François Legault versus l'agenda du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford. Puis on s'est rendu compte que Doug Ford rencontrait des politiciens de l'autre côté à Washington, tandis que François Legault rencontrait des proches partenaires. Entre autres, il a rencontré Alstom à Washington. Puis là, ben, il a été un peu fâché parce que les journalistes ont comparé l'agenda de Doug Ford à celui de François Legault. Je me pose des questions à savoir, est-ce que François Legault est accompagné de gens qui comprennent bien l'anglais, qui sont capables de bien traduire à François Legault versus la personne qui est en face de lui, le politicien? Est-ce qu'on n'a pas une crainte, justement, que François Legault, ben, on le sait, il ne s'exprime pas bien en anglais. Il n'a jamais vraiment tenu à bien s'exprimer en anglais, visiblement. Il y a un certain malaise. Là, aujourd'hui, ils nous disent, ils vont rencontrer des politiciens, mais il va être avec Doug Ford. Ce ne sera pas lui qui va prendre le lead des conversations. Il va comme être à côté en espérant que Doug Ford puisse traduire. C'est le gars qui est en face, comprend rien. Ça fait petit pop un peu. T'es-tu d'accord?
Ben oui, c'est 100%. Puis je suis très surprise. Tu sais, je comprends, là, on fait la politique au Québec et tout ça, mais M. Legault, ça a été un homme d'affaires très prospère avec Air Transat. Je pensais qu'il était meilleur en anglais il y a plusieurs années là, quand j'ai réalisé ça. Et dans ce cas-ci, ben ça ressort. Ça a ressorti dès les premières fois en Doug Ford, où il y a eu des coups de circuit, c'est d'aller parler à Fox News, d'aller parler à CNN. Il était à NBC hier soir. Tu peux pas. François Legault a un anglais acceptable pour répondre aux journalistes québécois en anglais, anglophone, canadien-anglais, dans un contexte politique, de politique, avec un vocabulaire de politique québécoise. Mais lorsque tu tombes dans des entrevues plus challengeantes, écoute, à Fox News, on s'entend, là, faut être vite sur ses patins, là, pour être capable de répliquer. Alors, c'est sûr que ça le brime. Ça l'a brimé sur le plan de certaines, mettons, visibilité publique, le médiatique comme ça. Et peut-être que tout ça contribue aussi à je suis pas dans les coulisses de tout ça, là. Là-dessus, mon opinion vaut un peu ton impression que je partage par ailleurs. C'est de dire, est-ce que, justement, cette confiance dans la langue puis dans l'entourage a fait qu'on les a bookés, ces rencontres-là? Tu sais, peut-être que pour M. Ford, qui avait une longueur d'avance, de par sa vision médiatique, de par l'influence de l'Ontario dans ce dossier-là, ça a facilité, ça a ouvert des portes aussi. Alors, je pense que tout ça est relié ultimement. Et là, on se rend compte qu'effectivement, avoir un premier ministre qui est quand même, je veux dire, en termes de contenu, M. Legault, c'est un grand comptable de formation. Il en a géré, il est capable, là. Mais est-ce que quand ton débit, ton vocabulaire et ton aisance à convaincre, parce que là, t'es plus dans la rencontre de courtoisie, à te serrer la main, puis avec des mots un peu plus convenus, on est quand même dans un certain degré de discussion, peut-être que là, ça le freine un peu.
Parce que, bien honnêtement, j'ai beaucoup aimé l'attitude de Daniel Smith. Moi, j'ai l'impression que Daniel Smith pourrait faire, dans les prochaines années, de la politique au niveau fédéral. Elle est allée rencontrer le méchant orange de l'autre côté, puis elle a passé deux jours à Mar-a-Lago en discutant avec lui. Puis, bon, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais après ça, elle a été invitée à son investiture, puis Doug Ford s'est présenté en capitaine Canada en allant à l'autre côté de la frontière pour jaser avec les Américains, tandis que François Legault s'est contenté d'une lettre. Je trouve que ça, c'est une lettre dans les médias. Oui. Ça en dit beaucoup sur le fait que on a un gros déficit là, de la langue française au Québec, puis il faudrait peut-être mettre l'accent peut-être un peu plus là-dessus si on veut jaser avec les amis de l'autre côté. Là.
Ben, je pense que ça, c'est comme je disais, ça paraît dans ces cas-là. T'sais, on avait Mme Marois aussi là, qui avait beaucoup de misère avec l'anglais, puis à un moment donné, mais quand tu sors de ta province, tu arrives dans un vocabulaire aussi qui est pourtant un langage que M. Legault connaît, là, tu sais, c'est sûr qu'il y a des domaines, tu sais, des fois un petit peu qui peuvent nous échapper, mais là on est dans le domaine des affaires, des transactions, il sait de quoi il parle, mais malheureusement effectivement il y a ce filtre là de la langue là, qui alors est-ce qu'on doit, on exige en ce cas d'un premier ministre, on l'a vu avec Mark Carney à l'inverse, hein, on se demande bien si son français sera de niveau suffisant pour faire un débat en français. Avoir une entrevue de fond à la télé, là, il commence clairement du côté du candidat à la chefferie au Parti libéral. On voit que son équipe, le media train un peu là pour être capable d'être en français. J'utilise un mot anglais pour parler de français, faut bien, en tout cas, c'est un peu ironique, là. Mais c'est sûr que là-dessus, c'est des deux côtés aussi. Donc on l'exige des élus. Ben, on espère aussi que nos politiciens soient capables de bien se présenter en anglais partout sur la planète.
Les sondages, est-ce qu'ils t'ont surpris de voir que Mark Carney, qui va probablement être mis à la tête du Parti libéral du Canada, là, commence à être aimé de plus en plus? Justin Trudeau, bon, son temps y était fait. Alors, on regardait les sondages, on se disait Pierre Poilievre va ramasser le Canada au grand complet. Puis là, avec Carney, on commence à voir que ça commence à monter, puis que le Parti conservateur commence à descendre, là.
Oui. Moi, je suis pas. Ben, en tout cas, je suis surprise de voir cette ampleur-là. Par contre, ça fait quelques semaines là, que M. Poilievre, il faut qu'il se réajuste le discours, là, parce qu'actuellement, il a beaucoup de misère devant un économiste comme M. Carney, qui n'est pas le plus flamboyant, il n'est pas le plus coloré. Mais le gars, puis c'est ce que les Canadiens peut-être réalisent à travers ces coups de sonde-là. Il a géré la Banque du Canada, il a géré les crises économiques, il a géré le Brexit comme directeur de la banque en Angleterre. Sur le plan économique, c'est la donnée principale présentement. C'est de ça dont on a besoin. Et M. Poilievre, on le dit en politique, vous connaissez l'expression, s'est fait manger son lunch de tous les bords. Il avait Justin Trudeau comme cible. Il est plus là. Il sera plus là. Il essaie d'associer, mais M. Carney, oui, proche peut-être de Trudeau, mais c'est quand même un nouveau visage. Il a fait sa campagne sur la taxe et Carney et Freeland, actuellement dans la course, disent « on va la revoir, la taxe sur le carbone, de toute manière ». Il parle de sécurité à la frontière. Dans le deal avec Trump, on a un tiers du fentanyl, on a 10 000 personnes à la frontière, on a un discours de sécurité qui émerge du gouvernement libéral actuellement. Fait que je dirais que l'espace médiatique, idéologique pour plaider, et l'autre problème, je pense, de M. Poilievre, c'est l'équipe. Ça commence à apparaître, là. Je le voyais avec sa tuque, là, tout seul avec son petit lutrin, là, à dire Canada first, là. À un moment donné, les gens se disent peut-être aussi, OK, mais qui sera le ministre des Finances? Tu sais, Dominique Leblanc, ministre des Finances, là, c'est pas gênant chez les libéraux fédéraux, là. Pas se le cacher, là. François-Philippe Champagne pour le commerce, Mélanie Joly qui a déjà vécu le premier mandat de Trump. Il y a une profondeur de l'équipe aussi, je pense, qui va finir par paraître. Puis M. Poilievre, il est en one-man show actuellement.
Ah, j'ai hâte de voir ça va être quoi la suite, là. Mais là, au moins, on est sauvé au Canada. On a élu le tsar du fentanyl. C'est un gars qui a été à la GRC pendant des années. Je m'attendais à ce qu'on le costume, là, un peu comme Jean-René Dufort, là, qu'on a costumé avec son genre de chapeau russe sur la tête.
Je m'excuse, mais tu sais, il y a quand même quelque chose de très drôle qu'il s'appelle Kevin Brosseau. Je veux rien y enlever, mais là, vous m'ajoutez du gaz sur mon plateau. Là.
Lâche les Kevin, toi.
Kevin Brosseau, c'est le tsar du fentanyl.
Ouais, lâche les Kevin, j'ai les aime. Kevin.
Non, ils sont smart, là. Smart, 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 smart.
Ben moi, il y a un essai que j'ai à la maison qui s'appelle « Pourquoi les Kevin ne deviennent pas médecins? »
Oui.
Mais bon, ils deviennent sœurs du fentanyl.
Arrêtez de bitcher les Kevin.
Mais il y a un beau parcours, là, vraiment. Là, je veux dire, même Jean-Philippe Barry-Guerrard, dans ses livres, prétendait comme un peu aussi... c'est Pierre-Yves qui a fait ça, lors aussi, un reportage sur les Kevin.
Ben oui, ben oui.
Donc,
ben oui.
C'est super sociologique. Là, on n'enlève rien ben oui, aux Kevin à l'écoute.
C'est avec Soldia.
Ah, c'est super intéressant. Ça, c'en est un là, qui a travaillé fort pour sa gang, là, le Kevin Brosseau, là, du fentanyl.
C'est cool. Vraiment. On peut dire qu'il y a un poste unique au Canada.
Oui, mais c'était pas rien. Vraiment, je suis conseiller à la Sécurité nationale, au renseignement auprès du premier ministre depuis octobre aussi dernier. Ouais. Là.
J'ai quelqu'un ici qui aura un message là, pour le nouveau tsar du fentanyl qui s'appelle Kevin. Je te fais entendre ça, Valérie.
OK.
Ah ouais, Kevin, aussi, continue comme ça. Ah ouais, Kevin, aussi, continue comme ça.
Bonne fête, Kevin.
Salut, Valérie Godreau, on te lit dans le soleil.
Merci, c'est toujours un grand plaisir.
Bye bye. Ça, c'est chiant d'écœurer Kevin.
J'écœure pas Kevin.
Oui. Tu ramènes tout le temps ça.
J'écœure pas Kevin.
Les Kevin sont en choc post-traumatique. Là.
Depuis que j'ai un micro.
Dites-le à Pascal. 418-971-1021. 418-971-1021. Comment?
Le tsar travaille pour cette gang-là.
Ah oui. Nous autres, on s'en va en musique. The Killers avec Somebody Told Me sur les ondes de Boulevard. On revient avec notre chroniqueur international, Louis Gauthier, tantôt.